c'est le journal de Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour Eve, bonjour à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre week-end et vos vacances d'été. Bienvenue à vous. Europe 1, il est 9h.
Nos chefs s'en foutent de nous. Et aujourd'hui, quand on vient manifester parce qu'on est énervé parce que nos amis sont morts, on voit soudainement l'armée partout. Est-ce qu'on doit tous devenir violents maintenant? Ça ne nous ressent pas, la violence.
Jusqu'à la violence pour défendre la dignité des plus faibles. Au Liban, les manifestants laissent parler la colère et la rage face à des gouvernants en qui ils ne se reconnaissent plus. Témoignage dès le début de ce journal.
72 départements en alerte sécheresse et 15 en alerte rouge canicule. Ce matin encore, la France est écrasée par la chaleur. Reportage à Lille où l'on fait tout ce qu'on peut pour se rafraîchir.
Et puis on ira à Pornic pour vous parler des célèbres bols bretons peints à la main. Plus besoin d'être maître artisan pour les faire soi-même. Si vous aimez le kitsch, vous allez être servi. On vous propose un cours gratuit dans ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La rage au cœur et la révolte dans les rues. Hier, des dizaines de milliers de Libanais ont manifesté dans Beyrouth, 5 jours après les explosions qui ont tué au moins 158 personnes sur le port de la capitale libanaise. La colère ne faiblit pas. Un policier est mort au milieu des affrontements avec la population. Et ce qui est sûr ce matin, c'est qu'une partie du peuple libanais n'a pas l'intention d'en rester là. C'est particulièrement le cas des jeunes comme Daniel, 29 ans, que Nicolas Feldman a rencontré.
Les responsables savaient qu'il y avait du matériel explosif dans ce port. Pendant 40 minutes, ils n'ont pas ordonné l'évacuation de la ville. Et juste ça, en tant que tel, c'est un crime contre l'humanité. Et juste ça, en tant que tel, ça devrait réveiller chaque personne libanaise pour faire comprendre à chaque personne libanaise que, indépendamment de leur religion et de leur appartenance politique, nos chefs s'en foutent de nous. Tout est en train d'être nettoyé par la population elle-même. Et aujourd'hui, quand on vient manifester parce qu'on est énervé parce que nos amis sont morts, parce qu'on est énervé parce qu'une petite fille de 3 ans est morte dans la maison, dans les bras de sa mère, on voit soudainement l'armée partout. Pour protéger quoi ? Pour protéger l'immeuble du Parlement, mais il a été détruit de toute façon pendant la bombe. C'est sidérant. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça fait 6 mois qu'on est pacifique. On veut pas la guerre, on veut pas de sang, on est éduqué, on est religieux, on veut la paix, on veut bien vivre. Et aujourd'hui, je peux vous dire que même nous, on a la rage dans les yeux. On nous dit une révolution, ça ne se fait que par le sang. Est-ce qu'on doit tous devenir violents maintenant? Ça ne nous ressent pas, la violence. Nous, nous sommes un peuple pacifique qui aime vivre, qui aime faire la fête. Est-ce qu'on est obligé de s'armer contre eux?
Témoignage recueilli par Nicolas Feldman.
Alors on parlait du bilan d'au moins 158 morts et plus de 6000 blessés, mais ce bilan il reste provisoire puisque les sauveteurs continuent de fouiller les décombres. 21 personnes sont encore toujours portées disparues. Johanna Chabas, l'une de nos envoyées spéciaux, a pu accompagner les sauveteurs dans leur recherche.
À la place du port, une plage, un trou béant rempli par la mer turquoise. Et autour, tout état de ferraille. Les bateaux sont renversés, les silos éventrés. Beaucoup de poussière dans l'air alors que les pelleteuses déblaient le terrain. Une centaine de secouristes sont toujours à la recherche de survivants. À l'aide de chiens renifleurs et de caméras. Colonel Tissier est en charge des 55 Français dépêchés ici. Pour l'instant, ils n'ont trouvé aucune victime vivante car le terrain est particulièrement difficile.
Comme il y a eu une explosion, il y a eu un effet de blast et de projection de nombreux matériaux. En fait, on trouve des plaques de béton qui sont quasiment pulvérisées par le souffle de l'explosion. Et l'environnement est particulièrement déstructuré. Le niveau du sol est peut-être 5 ou 10 mètres au-dessus ou en dessous de ce qu'il était auparavant. Il y a tellement de gravats partout, il y a tellement de fer à béton qu'on a du mal à progresser. Cela s'ajoute évidemment les conditions au niveau température, aujourd'hui du vent, de la poussière, qui compliquent le travail des équipes.
Autre difficulté, les secouristes n'ont aucune donnée sur le nombre de personnes manquantes qui sont encore à chercher. Et la possibilité de trouver des survivants relève aujourd'hui du miracle, selon le colonel. Son équipe a déjà commencé une deuxième étape de sa mission, s'assurer de la stabilité des bâtiments du centre-ville pour éviter tout nouvel éboulement. Beyrouth, Johanna Chabas, Europe 1.
Et puis on l'apprend à l'instant et ça peut vous aider à visualiser la puissance de l'explosion. On a mesuré un cratère à l'endroit de l'explosion d'une profondeur de 43 mètres sur le port de Beyrouth. Et puis aujourd'hui à 14h, une grande visioconférence des chefs d'État pour venir en aide au Liban.
Europe 1, 9h03, Simon Rubin, Eve Roger.
On attend aujourd'hui de nouvelles températures caniculaires un peu partout en France. 15 départements sont désormais placés en alerte rouge.
Alors évidemment, il y a ceux chanceux qui sont en vacances au bord de la mer ou d'une piscine. Et puis il y a les autres, ceux qui sont restés en ville. Reportage à Lille de notre correspondant dans le Nord, Maximilien Carlier.
Julie et ses enfants, les pieds dans l'eau, en maillot de bain, ils ont choisi les jeux aquatiques dans la métropole illoise pour s'occuper.
On essaie de les sortir à proximité de
de la maison pour qu'ils puissent profiter quand même. C'est important pour eux et pour nous aussi.
Car ils auraient dû partir au lac d'Annecy, mais à cause de leur travail dans l'événementiel, impossible.
Avec les reports de mariage qu'on a dû faire, on a annulé nos vacances pour pouvoir placer des dates dès que c'était possible. On a été fermés 3 mois, donc c'était pas raisonnable de partir en congé cet été financièrement. Voilà, secteur un petit peu compliqué. On va dire en ce moment.
Pas de voyage non plus pour Nathalie qui habite en appartement avec sa fille en plein centre-ville de Lille. Elle cherche à se rafraîchir mais pas évident.
J'aimerais vraiment qu'il y ait un peu plus de points d'eau. Je ne sais pas si on peut mettre ça en place. C'est difficile pour ceux qui ne partent pas en vacances. On aimerait bien pouvoir plonger, on aimerait bien être au bord de mer en train de brasser. Et de me faire plaisir les doigts de pied en éventail.
Et plusieurs familles avaient l'habitude de passer des vacances à Lille-Plage, plage aménagée avec piscine, transat et sable. Mais rien cette année, annulé à cause du Covid. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
L'île Maurice dans l'inquiétude. Le 25 juillet dernier, un cargo s'est échoué au large de l'île et depuis, il déverse sans discontinuer dans l'océan ses 200 tonnes de diesel et 3800 tonnes de fuel.
Un risque écologique majeur pour l'île qui va recevoir l'aide de la France et à mesure que la nappe de pollution s'étend, l'inquiétude grandit aussi. À la Réunion, île voisine, écoutez Estelle Crochelet, elle est docteure en écologie marine de l'association Arbre pour la protection de la biodiversité à la Réunion.
On ne peut pas affirmer qu'il n'y aura pas de danger pour la Réunion parce que on a le courant sud-est équatorial qui se déplace d'est en ouest. C'est le courant le plus fort dans l'océan Indien occidental et avec un déplacement massif des masses d'eau d'est en ouest, donc de l'île Maurice vers la Réunion. Si on parle en termes de dérive avec les courants, si on lâche un bouchon aux abords de l'île Maurice, il faudrait entre 3 et 11 jours pour que ce bouchon arrive sur les côtes réunionnaises. Donc si on fait le parallèle entre des polluants et ce bouchon, on sait que si on a une présence de polluants à l'île Maurice, ils peuvent être entraînés par les courants et de fait se retrouver sur les côtes réunionnaises.
Estelle Crochelet, docteur en écologie marine, interrogée par François Villemain.
Que faire des terroristes incarcérés en France à leur sortie de prison? Question épineuse à laquelle la majorité souhaitait répondre avec une loi.
Mais manifestement, cette loi n'était pas bonne. Le Conseil constitutionnel l'a retoquée au motif qu'elle portait atteinte à plusieurs libertés fondamentales et la majorité va donc revoir sa copie. Adrien Beck.
La majorité savait qu'elle évoluait sur une ligne de crête, elle a donc fini par basculer. Pourquoi ligne de crête? Car ce texte aurait permis au procureur national antiterroriste de requérir des mesures dites de sûreté pour des détenus condamnés pour terrorisme à leur sortie de prison, et ce pendant 5 à 10 ans. Ce serait allé du simple suivi par des services d'insertion jusqu'au port d'un bracelet électronique en passant par l'interdiction de changer de domicile ou d'emploi sans autorisation préalable d'un juge. Une forme de peine après la peine, ont dénoncé certains juristes, avec l'idée qu'une fois qu'une peine est terminée, eh bien, elle est terminée. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel ne conteste pas le bien fondé de ces mesures de sûreté, mais bien le fait qu'elles sont en l'état attentatoires à des libertés fondamentales, qu'aucun dispositif de réinsertion n'est prévu durant la peine, entre autres griefs. La majorité va donc devoir repasser tout ça dans un calendrier législatif très serré.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. À partir de demain matin, 8h, les masques seront obligatoires en extérieur dans certaines zones très fréquentées de Paris, ainsi qu'en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Il faut dire que l'épidémie semble repartir en Île-de-France.
Alors si vous aimez tout ce qui est kitsch, et moi j'aime ça, allez soyez bien attentifs à ce qui va suivre, parce qu'on va parler des célèbres bols bretons. Vous savez, ceux au bord bleu avec votre prénom dessus.
Et il y a des dans les foyers français, à savoir si c'est beau ou pas. Mais en tout cas, on en a tous au moins un chez soi. Et Charles Guyard, notre correspondant qui adore les loisirs créatifs, eh ben, il a suivi un atelier du côté de Pornic qui permet aux touristes de s'essayer à la peinture sur porcelaine.
Quand on a envie de l'étaler, ça fait des gros pâtés.
Le pinceau à la main, Amy, 8 ans, est très concentrée sur une tirelire sur laquelle elle est en train de peindre une fleur sous les conseils de William, l'animateur.
C'est parce qu'en fait, la peinture sur faïence, c'est comme une éponge.
En face, sa maman décore un gobelet. Pour Marie-Alice, qui vit en région parisienne, cet atelier, finalement, c'est presque un retour en enfance.
La faïencerie, bah, c'était quelque chose qu'on connaissait déjà. C'est vrai qu'on a tous notre bol à notre nom.
Clément aussi connaît bien les lieux. lieu. S'il habite à Versailles, cela fait 3 ou 4 étés que son papa l'emmène ici. Aujourd'hui, le garçonnet a dessiné un phare qu'il colorie sur un plat à cake.
Je vais colorier les lumières en jaune et le phare peut-être en bleu ou en rouge.
Les couleurs, c'est Chloé, l'autre animatrice qui se charge de les préparer.
La peinture, en fait, elle n'est sèche que quand elle passe au four. Mais elle a tendance quand même à durcir, à être un petit peu plus pâteuse. Du coup, il faut bien la rendre liquide et crémeuse.
Et au bout d'une heure et demie...
Il va vous rester 5 minutes avant la fin de l'atelier.
Et une fois la peinture séchée, l'objet sera ensuite recouvert d'émail avant de passer 10 heures au four à 1080 degrés. 3 à 4 jours plus tard, son propriétaire pourra venir le retirer directement en boutique ou, si ses vacances sur la côte sont terminées entre-temps, se le faire envoyer à domicile, moyennant les frais d'expédition. Pornic, Charles Guyard, Europe 1.
Eh bien, je me demandais si vous aviez votre bol, Simon.
Je l'ai absolument, depuis des années, intact.
Parfait. On termine ce journal avec du foot. Mauvaise nouvelle pour le PSG en vue de son quart de finale de Ligue des Champions mercredi prochain.
On sait que Kylian Mbappé aura sans doute du mal à être totalement remis d'une entorse, mais à cela s'ajoute un forfait de taille, celui de Marco Verratti, le milieu de terrain italien, Julien Froment.
C'est une blessure anodine aux grandes conséquences. Touché au mollet à l'entraînement par son propre coéquipier Eric-Maxime Choupo-Moting, le milieu de terrain Marco Verratti a passé des examens hier. Examens qui ont confirmé son forfait. Pas de quart de finale de la Ligue des Champions contre Bergame. Verratti pourrait même manquer une éventuelle demi-finale prévue le 18 août. Si bien sûr Paris se qualifie, le PSG contre les Italiens sans Marco Verratti, sans Leivin Kurzawa et sans l'Argentin André Di Maria suspendu. Sans oublier la blessure plus cocasse de l'entraîneur Thomas Tuchel, qui s'est fait une entorse à la cheville lors d'une séance de sport. Il est d'ailleurs apparu hier à Faro, Portugal, avec des béquilles. Les supporters parisiens pourront tout de même se consoler en apprenant la blessure au genou du gardien titulaire de l'Atalanta Bergame, qui est forfait pour le match de mercredi.
Et le match du PSG contre Bergame, ce sera à 21h à suivre sur Europe 1. L'Olympique Lyonnais jouera son quart de finale contre Manchester City samedi. Rappelons les qualifications hier soir de Barcelone contre Naples et du Bayern Munich contre Chelsea.
Eh bien, merci Simon Rubin. Tout à l'heure.